Attends, je crois que... viens, on va parler. Viens, on va causer. Viens, viens ici, rentre. Que tous les théâtres soient des, deviennent des églises laïques, que tout le monde, que tout le monde puisse venir partager constamment. Et puis... tant que nous avons la chance de ne pas avoir un dictateur à la tête de cet État, les plateaux sont ouverts à l'expression, à la libre expression, et on continuera à le faire. Donc liberté, égalité, fraternité, c'est bien sur les théâtres, et il y aura des théâtres à Paris, à Nice, à Arles, à Nantes, à Port-de-Boux, à Miramas, à Gardanne, qui au même moment mettront sur leur façade liberté, égalité, fraternité. Et il faudra que nous nous rassemblions tous avec ces mots en les faisant refleurir d'une autre façon, mais avec une vraie tendresse, un vrai souci d'amour.
À la semaine prochaine.
Rádio Bez Boga e Bez Gospodária. Rádio Libertária 89,4 FM.
Rádio Libertária 89,4 FM.
Rádio Libertária 89,4.
Rádio Libertária 89,4 FM.
Rádio Libertária 89,4.
Rádio Taharruri 89,4.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Tu seras arrivé, tu verras, y a dans les pieds 15 tonnes de vaisselle, 2000 bouteilles vides, des cendriers pleins et cassés, et le feu éteint. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Et après, quand tu auras fini, je te donnerai 50 000 $. Tu pourras t'acheter la maison de tes rêves, toute pourrie. Et j'espère que tu dormiras bien avec les crocodiles sous l'escalier. Tous les jours, tu auras de la soupe au micro. C'est bon pour les os. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Maintenant je vais te chanter la chanson de l'araignée. L'araignée Spider-Man a glissé sur une peau de banane. Direction hôpital, opération du trou de balle. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Quand j'aurai fini de chanter, tu pourras tout casser, mettre le feu à mon sandwich et m'allumer le bout du tiche. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? et si tu n'as pas compris.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h pile poil, nous sommes le mercredi 25 octobre 2023, vous écoutez Au fil des pages sur Radio Libertaire, donc tout est parfait. Au fil des pages, une émission proposée par des passionnés du livre, de la lecture et de ce que l'on appelle la chaîne du livre, et c'est une pensée pour François Gèze dont nous parlions avec notre invité Vincent Chabot. Lui, Vincent Chabot, va nous parler de son livre, le livre d'occasion, Sociologie d'un commerce en transition, paru aux presses universitaires de Lyon. Et Dominique nous rejoindra par téléphone, comme d'habitude. Avant que nous démarrions, Frédéric, est-ce qu'il y a des annonces ? Pas d'annonces. Très bien. Alors, en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et au programme de cette émission, pour alimenter le débat, nous parlerons d'un livre Zamizda, paru aux éditions du Nouveau Monde. Deux livres, Mexique 2003, Calendrier de la Résistance du sous-commandant Marcos et La Commune d'Oaxaca de Georges Lapierre, paru aux éditions L'Éclat. Ensuite, Fred nous parlera d'un livre pas tellement connu, La Destruction Libératrice de Wells, aux éditions du Cherche Midi. Nous retrouverons ensuite notre invité pour une demi-heure d'entretien. Et puis nous parlerons de deux livres. Le livre de Violaine Giacomotto Cara et Sylvie Noni, La Terre plate. Et un roman de Paul Saint-Brice, L'Allègement des Vernis. Et peut-être aurai-je le temps de vous parler d'un autre, mais nous verrons cela. Tout d'abord, Zamizda. Alors, Zamizda, le titre est beaucoup plus long puisque c'est publication clandestine et auto-édition en Europe centrale et orientale des années 1950 à 1990. C'est un livre récent qui établit un tour d'horizon de ce phénomène de société en URSS et dans les pays du bloc de l'Est, Pologne, RDA, Bulgarie. Ça, c'est une première à noter, c'est le premier ouvrage qui porte sur cette question. Ensuite, une trentaine de spécialistes en ont étudié la chronologie, la matérialité et sa parenté avec d'autres médias, le tout présenté dans des notes courtes et explicites. Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que le Zamizda ? Alors, le terme est tiré d'un acronyme russe qui signifie « auto-édition ». Je vous donne lecture de la définition qui en est donnée, page 9 de l'ouvrage. Un Zamizda peut se définir comme un écrit que l'on édite soi-même, souvent dans la clandestinité, dans ce que l'on appelait communément le bloc de l'Est, sphère d'influence de l'Union soviétique pendant la guerre froide jusqu'au début des années 90. Et il s'agissait bien de publier en dépit des interdictions d'une censure plus ou moins explicite. Premier aspect. Ensuite, les formes en sont variées. Là, moi aussi, j'ai vraiment découvert, parce que on a des textes intégralement rédigés à la main, une pratique de copie manuscrite, par exemple des passages importants qui sont lus dans des imprimés et que l'on recopie. Elles aboutissent à des publications qui profitent de certaines avancées technologiques qui permettent une diffusion sinon massive, ou en tout cas considérable. Et entre ces deux extrêmes, je cite toujours le texte, entre ces deux extrêmes, toutes les combinaisons sont possibles, tant les situations sont diverses entre pays et parfois entre entités territoriales d'un même pays. De la simple copie à l'édition, à la publication,
en intégrant la question de la distribution. Bref, le Zamizda, c'est vraiment un phénomène intéressant, important, et son existence dépend de la sévérité de l'oppression. Elle existe ou elle n'existe pas. Et le problème reste posé de la zone grise, du tacite, de l'admis, et puis brusquement du retour du sectarisme. Bref, c'est souvent une situation qui n'est pas dépourvue de tout lien avec les périodes de relative tolérance et de répression dans le bloc soviétique. Les passages consacrés à la censure, à la répression, montrent combien il était risqué de publier. Et vous goûterez, par exemple, la notion de délit de parasitisme. Le délit de parasitisme, c'est-à-dire, vous écrivez, vous êtes un parasite, donc vous êtes condamnable. Délirant système. Évidemment, le système n'est pas uniforme. Et des pays très totalitaires, comme la Roumanie, que moi j'ai eu l'occasion de voir au lendemain de la chute de Ceausescu, laisse peu de place à l'écriture, peu de place à la tolérance et à l'échange. La Pologne, elle dispose de la présence de l'Église. Et avec le poids de l'Église, il y a des compositions qui sont possibles, même si nous savons, et nous nous rappelons, la reprise en main à un moment donné de l'histoire. Et les champs d'intervention et d'écriture ne se limitent pas à la politique. Les romans, les témoignages, la poésie, l'art abstrait sont diffusés ainsi. Et avec l'évolution technologique, arrivent des cassettes de rock, notamment. Alors ça nous paraît banal aujourd'hui, mais c'était à l'époque, c'était assez révolutionnaire. Bon, certes, on recopie un texte à la main. Un exemplaire, parfois. Un seul exemplaire. Et on le diffuse. Parfois, on fait des photocopies. À ne pas confondre avec les tamizda, qui sont des livres écrits dans le pays, rédigés dans le pays, puis exfiltrés pour être imprimés à l'Ouest et diffusés dans le pays. Certains n'appréciaient pas. Des outils permettent aussi de souder des communautés, notamment chrétiennes, mais aussi homosexuels, féministes. Et après le drame de Tchernobyl, la question écologique commence à apparaître dans les médias. 1990 paraît sonner le glas. Paraît sonner le glas de cet outil. La ville de Brême accueille un centre d'archives et d'études sur ces médias, ces différents médias. Mais en est-ce terminé pour autant ? Est-ce que la liberté d'expression permet désormais, enfin peut-être, exercer librement ? Bon, eh bien la sinistre situation de la Russie démontre que la démocratie est bien fragile. En soi, est-ce vraiment une découverte ? Moi, je ne crois pas. Et surtout, je voudrais insister sur la conclusion des responsables de cet ouvrage. Pareil, je cite page 27. La manipulation des mémoires et des messages se déchaîne. Elle fait partie de la machine à détruire. Et la résurgence des recherches sur le Zamizda serait donc aussi une réaction instinctive à l'inquiétant retour de la fausse parole dont parlait quelqu'un qu'on aime bien sur Radio Libertaire, dont parlait Armand Robin, à la remontée des périls qui bousculent l'idée candide selon laquelle la période du Zamizda serait close 30 ans plus tôt. L'impérieuse nécessité dont le Zamizda est issu, est de maintenir le mot vivant, le livre libre, et cela nous apparaît à nouveau dans son évidence aveugle. Défendons nos libertés. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Zamizda, publication clandestine et auto-édition, en Europe centrale et orientale, année 1950-1990. C'est un ouvrage collectif sous la direction d'Hélène Camarade, de Xavier Galmich et de Luba Jorgensen, paru aux éditions Nouveau Monde en 2023. Je rappelle que les références des livres dont nous parlons, eh bien, vous pouvez les retrouver sur le site de Radio Libertaire et vous pouvez aussi les retrouver sur le blog du groupe Commune de Paris, puisque nous sommes quelques-uns dans cette émission à faire partie de ce groupe. Un moment donc important, là, et ça, pour alimenter le débat. La liberté, la notion de liberté d'expression dans ces pays-là. La question du zapatisme. Alors, les éditions de l'Éclat nous ont adressé en fin d'été deux ouvrages de poche relatifs au mouvement zapatiste et publiés initialement aux éditions Rue des Cascades par notre ami le regretté Marc Toncin. On la connaît bien, la Rue des Cascades, notamment son espace Louise Michel, construit par un autre regretté, Lucio Urtubia. Et les éditions à la Rue des Cascades, créées en 2007 sur les hauteurs de Ménilmontant, s'appuyaient sur la solidarité active et puis tout un réseau d'amis dans l'Est parisien. Elle va même se développer, s'étendre vers les montagnes du sud-est mexicain, jusqu'à la jungle du Chiapas, en Grèce, en Crète, où Marc décède accidentellement en 2021. De son expérience au Mexique, il en ressort une collection dite « Livre de la jungle ». Et pour que l'expérience perdure, les éditions de l'Éclat reprennent à ce qu'ils appellent le rythme lent de l'édition pauvre, c'est-à-dire indépendante, ses ouvrages. Les deux premiers, publiés en l'état, tels que Marc les avait conçus, reprennent un moment particulier des luttes du Chiapas. Et pour ceux qui peuvent passer par Publico, la librairie de la Fédération anarchiste, bien nous y étions cet après-midi avec Frédéric et j'ai eu l'occasion de voir encore quelques exemplaires de ces deux ouvrages. Donc n'hésitez pas. Le premier ouvrage du sous-commandant insurgé Marcos a pour titre « Mexique 2003, calendrier de la résistance ». Quel constat que de voir ces tenants du pouvoir, là-bas, Mexique, mépriser et tenter de détruire la culture de ces peuples autochtones. Vous lirez, c'est étonnant, 20 ans de résistance, de souffrance, étonnant au sens de quel courage, de souffrance pour avoir le droit d'exister dans le respect de leur dignité et de leur autonomie. Certaines pages ne sont absolument pas datées, on pourrait les avoir écrites hier. L'autre livre, sous la signature de Georges Lapierre, La Commune d'Oaxaca, traduit la lutte des femmes et d'hommes qui veulent se gérer eux-mêmes. On aime bien, nous, sur Radio Libertaire. Et les institutions gouvernementales sont ignorées. Les assemblées populaires deviennent des instances d'où émane un nouveau mandat politique. Très inquiétant pour les pouvoirs installés, évidemment. Georges Lapierre connaît bien le Mexique. Il rapporte les faits au quotidien de cette communauté et engage une réflexion sur la communalité des peuples indiens. Une approche tout à fait intéressante. Allez faire un tour aussi sur le site des éditions de l'Éclat, mais aussi sur celui intitulé « La voix du jaguar ». L'esprit de Marc Toncin, est toujours présent. Je rappelle les deux titres de la collection, L'Éclat, poche, série Les livres de la jungle, Mexique 2003, calendrier de la résistance du sous-commandant insurgé Marcos, et La Commune d'Oaxaca, de Georges Lapierre, en librairie depuis le 15 septembre, et on sait qu'il y en a deux autres qui sont déjà sortis. Donc, vraiment, N'hésitez pas, c'est tout à fait intéressant de lire ces deux ouvrages. Frédéric, j'avais pensé que nous aurions pu passer un hymne zapatiste qui a été chanté à Saillant, une commune qui a beaucoup fait parler d'elle un certain temps. Est-ce que tu pourrais nous le passer sur les ondes ? Découvert un livre qu'on connaît assez peu, La Destruction Libératrice, de H.G. Wells, Herbert George Wells, paru aux éditions du Cherche Midi. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce livre ?
Tout à fait. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. C'est un hasard heureux qui m'a amené à découvrir ce livre d'H.G. Wells, La Destruction Libératrice. Un titre un peu énigmatique, pour un livre moins connu et moins cité de l'œuvre de Wells, mais qui mérite sa lecture. Écrit en 1913, ce livre décrit une guerre atomique. Quel sens de l'anticipation, n'est-ce pas ? La découverte à l'époque contemporaine de Wells de la radioactivité inspirera Wells sur ce qui se révélera malheureusement vrai sur certains points, des faits liés à l'exploitation de la radioactivité, aussi bien en tant qu'énergie que comme moyen de destruction. À titre personnel, j'aurais préféré que l'anticipation wellsienne s'avéra fausse. Vous lirez que Wells avait pressenti toutes les implications politiques et sociales et aussi guerrières de l'exploitation de ce que l'on appelle aujourd'hui le nucléaire. Des descriptions d'explosions, des conflits, des ravages, des troubles, une vision de la nocivité des découvertes scientifiques, mal évaluées, mal appréhendées, mal utilisées. Bien que ce soit un roman d'anticipation, je dois dire que ce livre m'a plongé dans une réflexion sur la fragilité du monde qu'on laisse aux gouvernants, aux gouvernements, aux militaires, à des intérêts privés, la gestion de notre société mondiale. En clair et pour faire court, cela mène immanquablement au désastre planétaire, rappelons-nous les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Puis, plus près de nous, l'explosion du réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et cette épée de Damoclès est toujours vacillante au-dessus de nos têtes. En ces temps où s'amoncellent les nuages guerriers, la lecture de ce livre fait réfléchir. Wells reste néanmoins optimiste, car une forme de libération, une prise de conscience dont je vous laisse découvrir le déroulement, se fait connaître en seconde partie du livre. Un livre accessible de 7 à 107 ans, d'un style fluide et accessible. En refermant ce livre, j'ai pensé qu'avant qu'une catastrophe planétaire du type décrite par H.G. Wells ne se produise, il était plus que d'actualité et nécessaire pour notre survie à toutes et à tous de lutter contre l'utilisation de l'énergie nucléaire et de ne plus nous laisser gouverner du tout. Je vais finir par ma phrase rituelle. Je ne peux que vous conseiller la lecture de ce livre, que vous pouvez commander par mail ou par téléphone à la librairie Publico. Je vous en rappelle les références. La destruction libératrice d'H.G. Wells, 334 pages, édition du Cherche Midi. Je te repasse le micro, Francis.
Je crois surtout, Frédéric, que nous allons en profiter pour réécouter avec plaisir la Java des bombes atomiques de Boris Vian. Ça s'impose. C'est parti.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Deuxième temps de l'émission, rencontre avec Vincent Chabot. Vincent Chabot, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous êtes professeur de sociologie à l'université Gustave Eiffel et vous avez publié plusieurs ouvrages dont l'un a pour titre « Éloge du magasin contre l'amazonisation » paru chez Gallimard en 2020 et republié, on le disait à l'instant, en poche.
Dans quel paraître chez en qui poche chez Folio, toujours chez Gallimard, avec une postface supplémentaire qui parle un peu du renouveau du petit commerce à la lumière aussi des années Covid.
D'accord. Mais est-ce que ça sera pérenne ou bien est-ce que c'est une amélioration temporaire?
Alors, c'est toute la question, mais quand on regarde encore les chiffres, j'y suis évidemment abonné, si j'ose dire, on voit que ce qu'on appelle le commerce de proximité, le petit commerce, qui sont souvent des petites entreprises, malgré l'inflation, tient bon, finalement, surtout dans le domaine alimentaire.
D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de votre... le petit dernier, qui n'est pas encore sorti en poche, mais ça... Bientôt, je pense, bientôt. Le livre d'occasion, Sociologie d'un commerce en transition, paru aux presses universitaires de Lyon. Qu'est-ce qui vous a attiré sur ce thème ?
Mais moi, j'ai passé à peu près 15 ans de ma vie scientifique à travailler sur le commerce du livre. J'ai notamment fait ma thèse sur la FNAC, sur les vendeurs de la FNAC, notamment les vendeurs de livres de la FNAC. Ça, c'est un livre qui est sorti en 2010, donc ça remonte un peu. J'ai continué un peu la FNAC et le livre, les libraires jeunesse, les plateformes aussi. Et j'ai aussi observé en scrutant un peu la filière, comme on dit, la filière du livre, l'inquiétude des éditeurs face au tsunami qui était celui du livre numérique. Et le tsunami n'est pas arrivé. On voit aujourd'hui que le livre numérique n'a pas remplacé le livre papier. Pourtant, certains y croyaient quand même, que les bibliothèques, les librairies allaient disparaître, etc. Et une autre transformation, une autre mutation, beaucoup plus confidentielle, beaucoup plus discrète, venait quand même monter en parallèle, si j'ose dire, c'est la plateformisation du commerce du livre d'occasion. Aujourd'hui, on va en reparler évidemment, mais 60% des transactions se font par les plateformes. Et j'y voyais finalement une difficulté supplémentaire pour le secteur, beaucoup plus forte que pour les éditeurs ne représentait celle du livre numérique. Aujourd'hui, on peut accéder à ce marché de seconde main très facilement et on peut revendre ses livres également. Et on voit aujourd'hui que, on ne parle pas encore de cannibalisation, mais un parasitage qui se renforce sur ce secteur-là en tout cas.
On parlait à l'instant du numérique et on parlait avant l'émission du livre posthume de François Gèze sur 40 ans d'édition. Lui-même avait souligné en disant attention, le numérique arrive, donc il faut nous préparer, mais ne croyons pas que le papier va disparaître totalement. Je crois qu'il y a toujours ce contact avec le papier, et même dans les livres d'occasion, justement, il y a ce contact
bien
avec
sûr,
le papier.
Cette
odeur, l'odeur du livre, souvent, ça j'entends cette... Oui, c'est une forme de résistance.
Il y a un attachement, ça c'est évident, au support. Donc le livre numérique, il faut tout simplement le voir, et les revenus sont dérisoires pour les éditeurs d'ailleurs. Alors après, il y a aussi un marché un peu parallèle, si j'ose dire. Mais il faut le voir comme un support supplémentaire.
Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que la révolution numérique et le livre, si vous voulez, ça démarre au moment où finalement les auteurs, les autrices sont tapés, si j'ose dire, sur Word, leur texte. La révolution numérique, elle commence là. Voilà. Donc c'est déjà ancien, ça a une trentaine, une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, effectivement, eh bien, c'est le commerce qui a été évidemment beaucoup exposé à cette numérisation. Aujourd'hui encore, les librairies, les grandes surfaces culturelles sont toujours les premiers détaillants du livre pour le livre neuf. Mais pour le livre d'occasion, on voit que le tournant finalement est passé.
Donc vous avez travaillé sur plusieurs années, c'est ce que vous disiez, de la FNAC et puis l'ensemble de ces travaux. Vous introduisez votre livre par une approche sociologique du commerce du livre. Libraire, ce n'est donc pas un métier comme un autre ?
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'un libraire, neuf ou occasion, il achète des livres et il les revend. En cela, il fait du négoce comme tout commerçant. Mais il travaille évidemment sur un bien à haute valeur symbolique qui est le livre et qui fait de ce commerçant un commerçant particulier, si j'ose dire. Du côté du livre neuf, on a la loi Lange qui a 41 ans et qui a 42 ans même et qui finalement rend ces commerçants encore plus particuliers, encore plus singuliers, si j'ose dire, puisque pour le livre neuf seulement, il n'y a pas de concurrence entre les réseaux de vente par les prix. Après que Leclerc et la FNAC aient voulu justement faire du discount à partir de 1974 en France. Pour le livre d'occasion, c'est un peu différent. Là, j'ai souvent entendu dans l'enquête, ah oui, mais les libraires d'occasion, c'est pas tout à fait la même chose. C'est souvent des vrais commerçants, puisque c'est eux qui fixent les prix. Il faut savoir aussi, pour le livre neuf, ce sont les éditeurs qui fixent le prix en vertu de cette loi sur le prix unique du livre. Donc les libraires d'occasion, ils ont effectivement cette capacité à acheter, revendre, à créer du profit entre les deux, si j'ose dire, et à fixer le prix de eux-mêmes de revente.
Le prix du livre, le livre neuf, moi j'ai connu effectivement cette période où à la FNAC on avait 20% de réduction par rapport au libraire. Donc effectivement, en tant qu'étudiant, on n'avait plus envie d'aller à la FNAC, faut quand même dire, en fonction des ressources des uns et des autres. Et puis, aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que globalement le prix du livre bouge peu? Je vois toujours des bouquins, alors en euros bien sûr, mais aux alentours de 15, 20, 25, 30 euros. Alors évidemment, on peut avoir des livres d'art à 200 euros, mais est-ce que le fait d'avoir fixé le prix a stabilisé le livre ?
Oui, le prix du livre, oui, on peut le dire. Alors là, dans depuis deux ans, il y a, à mon avis, une petite inflation, mais qui est quand même, bien inférieure à l'inflation généralisée. Après, ça se joue aussi, les marges de manœuvre des éditeurs jouent aussi sur le côté, la matérialité du livre. On voit aujourd'hui du papier de moins bonne qualité, on voit des livres qui vont peut-être être paginés un peu différemment, etc. Donc il y a aussi des marges de manœuvre du côté des fabricants de livres pour justement ne pas répercuter l'ensemble du coût des matières premières, notamment le papier, sur le prix final payé par le lecteur, de peur aussi qu'il regarde du côté du livre de l'édition de poche et de l'édition d'occasion.
Oui, et même si déjà dans les années 60-70, le livre de poche, on sentait bien, rien qu'en touchant les pages, que ça allait pas durer 200 ans, quoi. Ouais. Alors, il y a le livre neuf et le livre d'occasion. Quelle définition peut-on donner d'un livre d'occasion ? Il y aurait plusieurs types de livres d'occasion.
Alors, d'abord, c'est un livre qui a eu un premier propriétaire. Ce n'est pas du solde, par exemple. Ce ne sont pas des invendus qui seraient recommercialisés. Le livre d'occasion, je le distingue aussi du livre ancien ou du livre rare. C'est-à-dire que on peut, de manière arbitraire, dire qu'il a été édité depuis les années 60, 70, par exemple. Et il est convoité plutôt pour son contenu que pour sa matérialité. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que sa valeur est dégressive. La plupart du temps, et dans 99% des cas, sa valeur marchande est dégressive. Ce qui n'est pas le cas du livre rare ou du livre ancien. Et puis, donc, il se diffuse ensuite. Il y a plusieurs types de livres d'occasion. Alors, on retrouve évidemment la distribution du marché selon les secteurs éditoriaux classiques. On sait que Gibert, par exemple, cette enseigne séculaire, s'est beaucoup spécialisée, c'est moins vrai aujourd'hui, sur le scolaire, sur l'universitaire. Aujourd'hui, c'est devenu une librairie généraliste pour différentes raisons. Et on a effectivement, je reprends cette typologie un peu dans mon livre, des libraires d'occasion un peu pour l'élite cultivée, on va dire. Donc, plutôt des librairies spécialisées ou des librairies en sciences humaines, en art, etc. Et puis des librairies pour tous et pour toutes, comme Gibert, comme Bouligné, etc. Mm-hmm. Et puis évidemment, de plus en plus, des plateformes qui réunissent toutes ces différentes offres.
Alors on parle de Gibert et Bouligné, qui sont célébrissimes boulevard Saint-Michel, mais est-ce qu'on a aussi ces mêmes enseignes ailleurs en France avec la même politique sur le livre d'occasion?
Oui,
Gibert en province.
Alors le Gibert en province existe. Il y a, je crois, une trentaine de magasins, une trentaine de succursales, me semble-t-il, surtout dans des villes étudiantes. Et puis Bouligné aussi. Alors Bouligné est plutôt effectivement francilien, on va dire, mais on retrouve aussi des réseaux indépendants ou des librairies indépendantes en province.
Alors, quels sont les motifs d'achat d'un livre d'occasion? Pourquoi ne pas acheter du neuf, hormis la dimension financière?
Alors, il se trouve que, à la suite de ce livre, j'ai été sollicité pour rejoindre le comité scientifique d'une enquête menée par le ministère de la Culture, qu'on est en train de finaliser, et la SOFIA, qui est un organisme de gestion de droit. Et on a pu, comme ça, produire un certain nombre de statistiques macroéconomiques, et une enquête de grande ampleur auprès des acheteurs de livres d'occasion. Et la première raison, elle n'est pas environnementale, elle est avant tout économique. C'est-à-dire qu'on achète du livre d'occasion pour des raisons économiques. pratique pour limiter ses dépenses, pour aussi pouvoir se payer des belles éditions à des tarifs plutôt abordables. Mmh. Je pense à la Pléiade, par exemple, ou d'autres, ou Quarto, etc. Et puis, on peut aussi, évidemment, optimiser ses achats. C'est-à-dire qu'on peut acheter beaucoup plus de livres pour un même prix.
Et le public, quel public achète de l'occasion ? Tout public ?
Tout public. Alors, il se trouve qu'évidemment, il y a un lien avec le diplôme, le niveau d'études. Ça, c'est évidemment conforme, si vous voulez, aux acheteurs de livres en général. Mais on retrouve évidemment des étudiants, on retrouve des enseignants. Bref, on retrouve les fractions culturelles et diplômées des classes sociales, classe moyenne et classe supérieure.
Et est-ce qu'il n'y a pas une forme de cannibalisation du livre neuf par l'occasion?
Alors ça, c'est très difficile à mesurer. Il n'y a qu'une seule enquête qui a été menée là-dessus aux États-Unis en 2006, me semble-t-il, une enquête d'économétrie qui, justement, voulait fixer le taux de substituabilité de l'occasion sur le neuf, finalement. Et ce taux était uniquement de 16%. Voilà. Donc le taux, je pense qu'aujourd'hui, il a dû progresser. Si on renouvelait les enquêtes, on verrait que ce taux a progressé. Mais on parle encore de parasitage plutôt que de cannibalisation. Il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, l'offre est beaucoup plus large sur les plateformes qu'en 2006. Ça, c'est évident. Que les routines d'achat aussi se sont développées et qu'il est très facile de trouver un livre d'occasion aujourd'hui sur différents sites, parmi lesquels Amazon, Le Bon Coin, Vinted, etc., toutes ces plateformes. Et puis, évidemment, ce qui a beaucoup augmenté aussi, c'est la revente des particuliers. Ce qui m'a frappé dans l'enquête, c'est évidemment, j'ai pu faire des entretiens avec, par exemple, un jeune retraité de l'Éducation nationale qui habite le 14e arrondissement et qui revend 2 livres par jour, à peu près. Des livres qu'il aurait trouvés dans son quartier lors de déménagement, des livres qu'il a trouvés à gauche, à droite, etc., lors d'un glanage urbain. Et on voit comme ça, évidemment, ça reste anecdotique, mais c'est en croissance. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui des non-libraires, des non-professionnels et même des particuliers investir le marché de l'occasion pour des raisons économiques.
Et pour le jeu.
Pour le jeu, tout à fait, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a une dimension ludique très forte, et pour aussi, peut-être inconsciemment, involontairement, glaner des petits apprentissages. C'est-à-dire que ce sont des gens, des particuliers, qui vont développer des formes d'apprentissage, des apprentissages de niche, sur les tendances du marché.
Et par exemple, chez Gibert, le neuf côtoie l'occasion. Enfin, quand je vais chez Gibert, alors on confond pas Gibert Jeune qui a eu quelques difficultés puisque c'est terminé, et puis Gibert Joseph.
Alors les deux Gibert se sont réunis aujourd'hui, les cousins voilà, se sont un peu rabibochés, se sont réconciliés voilà, pour des raisons économiques. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que Gibert a, c'est assez rare ça, a élaboré l'interclassement avec une martingale extrêmement précise, puisqu'il ne faut pas que l'un ou l'autre se cannibalise, là, pour le coup.
Oui.
Les gens viennent pour l'occasion, mais repartent aussi avec du neuf. Voilà. Sachant que, évidemment, dans tous les coups, vous avez à peu près 36% de marge sur le neuf, et vous avez des marges supérieures sur l'occasion.
Je vois, sur certaines piles, au rayon histoire, par exemple, je vois sur certaines piles, les livres neufs, et puis intercaler des livres avec la petite bande jaune.
Le produit d'appel, c'est l'occasion, mais évidemment, on repart aussi avec du neuf.
Et finalement, les livres, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que les livres d'occasion ne sont pas, dans cette hypothèse-là, ne sont pas particulièrement abîmés. Ils sont quasiment neufs. Ils sont légèrement touchés. Mais enfin, bon, il n'y a pas de quoi en faire un plat.
Vous retrouvez aussi ce que j'appelle des faux livres d'occasion, c'est les services de presse qui sont, alors ils sont moins abondants que pendant un temps, mais un service de presse n'a pas eu de lecteur final, un lecteur particulier de premier propriétaire. Ils sont offerts aux journalistes, comme chacun sait. Et vous retrouvez même parfois des dédicaces à des journalistes célèbres, etc. Et on voit effectivement ces livres ressortir très rapidement après l'apparition d'un livre, un neuf. Vous pouvez retrouver évidemment son exemplaire.
Ah oui, ça, voilà. Surpris de grand chose, mais bon. Et alors, pour les gros lecteurs, bon, le choix économique est indéniable. Même si François Gèze expliquait sur 20-25 ans que les gros lecteurs étaient en voie de disparition, en tout cas, lisent 5 livres par mois, il y en a de moins en moins.
Alors, le nombre de lecteurs diminue, ça c'est évident. Depuis la fin des années 90, les enquêtes pratiques culturelles des Français là-dessus, c'est certaine, est vrai. Et effectivement, vous avez raison, le nombre de non-lecteurs augmente et le nombre de gros lecteurs, plus de 20 livres par an, si mes souvenirs sont bons, s'effrite aussi. Et ça, c'est évidemment un problème. Malgré tout, il y a un paradoxe, c'est que le marché du livre ne s'effondre pas depuis 20 ou 30 ans. Pour quelle raison? Eh bien, parce que les éditeurs ont inventé des livres qui ne se lisent pas, finalement. Des livres de consultation, des livres de divertissement, des faux livres, mais qui sont malgré tout des livres.
Des lavres.
Non, mais
cette expression-là.
On trouve effectivement, voilà, des ouvrages et des stratégies éditoriales qui produisent des livres au final, mais qui viennent en appui d'une série, qui viennent en appui d'un jeu, etc. L'édition jeunesse, voilà.
Oui, tout à fait. Alors, vous montrez la montée en puissance du livre d'occasion. Vous avez les chiffres?
Oui, alors justement, les données récentes du ministère de la Culture et de la SOFIA, le livre d'occasion, ça représente 20% des achats de livres en 2023, 11% en 2014. Et 34% des acheteurs de livres neufs achètent aussi des livres d'occasion. C'était 24% en 2014. Et le marché des livres d'occasion, selon des estimations, il atteindrait à peu près 350 millions d'euros au regard des 4 milliards d'euros que représente celui du livre neuf. Donc on a effectivement une croissance des achats, une croissance également de la part des achats d'occasion dans les achats de livres en général.
Et comment, alors, on parle un peu de ces libraires, des généralistes, des spécialistes, il y a des noms au parcours étonnant là, dans votre livre. Comment travaille-t-il?
J'ai effectivement traversé un peu cet univers professionnel avec passion et avec intérêt, et j'ai pu donc des libraires indépendants, vous avez raison, des bouquinistes également, des gens aussi, des professionnels qui sont sur le livre ancien et le livre d'occasion en même temps, puisque tout simplement quand ils vident des appartements, ce qu'on appelle des mortuaires ou dans le cadre de succession, ils ramènent des livres rares, des livres anciens, mais aussi évidemment ce qu'ils appellent la bouquinerie, le courant, qu'ils recommercialisent ensuite dans des bacs, parfois à l'extérieur de leur librairie ou comme c'est souvent le cas sur Internet aujourd'hui. Ce qui m'a frappé chez cette population-là, extrêmement masculine, il faut déjà le rappeler, c'est que leur intérêt véritable, c'est le rachat de livres. Partir aux champignons, trouver de la fraîche, trouver de la cam, etc. Leur intérêt, le sens qu'ils construisent dans leur travail, c'est s'articule autour de cette quête de livres, finalement. Et j'ai pu aussi, à l'opposé, être assez surpris du peu d'intérêt qu'ils ont pour l'interaction avec le client final. Finalement, c'est pas véritablement la vente de la revente de livres qui les intéresse, c'est plutôt le rachat. Et le rachat à l'unité, le rachat par lot également, donc ce qu'on appelle les mortuaires. Et j'ai dans le livre rassemblé aussi, dans la bouche d'Henri Verrier, qui est un grand libraire qui a plus de 80 ans au Puce de Saint-Ouen, rassemblé toute une série de descriptions savoureuses quand il part encore aujourd'hui, d'ailleurs, avec ses employés dans ses camionnettes, dans des appartements parisiens, pour les vider. Et on voit vraiment que la satisfaction et le sens qu'ils attachent à leur activité passent par ce rachat de livres.
Oui, enfin, nous, dans un autre ordre d'idées, on a eu l'occasion, dans le cadre de la librairie Publico, d'aller voir quelques vieux militants qui voulaient laisser leur livre, un certain nombre de livres. Et c'est vrai que c'est passionnant, d'abord d'aller voir les gens, de discuter avec eux, de voir leur environnement, de prendre ces livres qu'on fait avec beaucoup d'émotion, parce que c'est difficile. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui ont un attachement sur les livres, donc je le fais pas avec violence. Et puis après, de pouvoir classer ce qui relève, du livre peu intéressant, faut quand même bien le dire, et puis du livre rare, on se dit, ah, tiens, un bouquin sur machin, ah, tiens, Macno en telle année, et on trouve des trésors, quoi, des perles. Autre aspect, comment se forme le prix? N'y a-t-il pas un danger pour les auteurs? Moi, je suis un peu inquiet par rapport à ça.
Il y a deux choses dans votre question. Sur le prix, effectivement, ce que montre mon enquête, c'est que de pratiques un peu partagées entre professionnels du livre d'occasion, on voit aujourd'hui le poids des algorithmes et des programmes informatiques pour chez Momox, chez Recycle Livre, voilà, chez différents grands détaillants qui sont présents sur les plateformes pour ajuster le prix à la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une tarification dynamique, un peu comme quand vous achetez aujourd'hui un billet d'avion ou un billet de TGV, où si vous mettez un livre à 6 € cet après-midi sur les plateformes, un concurrent pourra le mettre à 5,99 assez immédiatement. C'est-à-dire que la formation du prix aujourd'hui a rejoint finalement l'algorithmisation, on va dire, de la vie économique, et les pratiques partagées par les professionnels du livre, ceux du marché Georges Brassens, ceux des Quai de Seine ou ceux des librairies indépendantes, sont aujourd'hui disqualifiés par cette technicisation véritablement du marché. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, sur le prix du livre, effectivement, alors, vous avez raison, puisqu'il baisse. C'est-à-dire que le livre d'occasion, ce que je viens de vous raconter là, a pour conséquence de faire baisser les prix du livre. Il y a une tarification, il y a une traque tarifaire sur les plateformes qui est menée par des nouveaux grands acteurs qui se sont investis et qui ont investi le marché. Et alors, du côté du partage de la valeur, c'est la question un peu que vous posez entre auteur et éditeur. Il faut savoir qu'un vrai, un premier achat, les titulaires des droits, auteurs comme éditeurs, ne perçoivent rien sur, évidemment, les secondes ventes, troisième vente, quatrième vente, etc. Bien sûr.
Le vrai problème, enfin, pour les auteurs,
oui,
il est quand même
que
là.
L'extension du marché ne rapporte absolument rien aux éditeurs et aux auteurs. Donc, très légitimement, et je pense que ça se justifie aussi, les associations d'auteurs, notamment la Société des gens de lettres, réclament la mise en place d'un dispositif qui permettrait par exemple abonder un fonds qui serait abondé par une taxe sur les plateformes de revente pour ensuite redistribuer les gains. Ce serait quand même difficile à mettre en place, ce serait une usine à gaz évidemment, et pour l'instant on n'en est pas, c'est un dispositif qui serait difficilement applicable. Il faudrait aussi taxer Emmaüs. On n'en a pas parlé, mais Emmaüs collecte 10 millions d'exemplaires, 10 millions de volumes par an, en revend à peu près un tiers, est présent sur les plateformes également, et même sur Amazon, à travers son réseau Page Solidaire. Bref, c'est aujourd'hui, évidemment, un univers totalement industrialisé, numérisé, qui pose question, évidemment, sur la rémunération des auteurs et des éditeurs.
Oui, moi, je le vois sur mes livres, que je vois de temps en temps, aussi bien chez des vendeurs d'occasion que sur des plateformes, et je me dis, tiens, bon, alors, c'est pas grave, pour moi, tant pis, mais c'est quand même assez étonnant, et je me dis, mais il y a des gens qui en vivent, dont c'est la ressource. Bon, votre analyse aussi des méthodes de travail chez Gibert et Bouligné montre bien la complexité du métier de libraire. En deux mots, ça s'organise comment chez eux? C'est assez étonnant.
Je le disais tout à l'heure, un libraire d'occasion a plus de risques, a un métier plus risqué finalement, parce que contrairement à un libraire de neuf qui peut renvoyer des invendus, c'est ce qu'on appelle l'office, des nouveautés invendues, et au bout de quelques mois, donc là il y a des conditions commerciales qui se définissent avec le diffuseur, le libraire d'occasion n'a pas d'office et risque le surstockage. C'est-à-dire qu'il faut sentir, en fait, quelle offre, quel livre, quel titre ont encore un potentiel commercial. Et aujourd'hui, il se trouve que chez Gibert, mais aussi encore chez ces nouveaux grands géants des plateformes, on a encore une fois des algorithmes qui viennent tester, examiner le potentiel commercial des livres. Ils ne vont pas reprendre les livres qu'ils ont déjà ou qui ont un avenir commercial extrêmement condamné, on va dire, pour différentes raisons. Tout simplement parce qu'ils ne l'ont jamais revendu. Il n'y a pas eu de demande par leur moteur de recherche. Et si vous n'avez pas aujourd'hui ce dispositif-là, pour programmer de futures ventes, vous risquez le surstockage. Donc c'est un autre métier, effectivement, qui comporte un certain nombre de risques. Parce que vous les avez payés, ces livres.
Oui. Et votre analyse, là, c'est assez étonnant de voir on appelle en rayon, on vérifie, il y a les gens qui font la queue pour déposer leurs livres. Oui. Je les vois souvent, là, cette petite rue, là, et certains qui ressortent en disant on m'a pas pris celui-là, on m'a pas pris celui-là. Alors vous dites aussi que le marché du parc Georges Brassens à Paris régresse. Pourquoi?
Alors en 1987, c'est sa date de création, me semble-t-il, il y avait 106 professionnels dessus. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine, une petite cinquantaine.
Ah oui.
C'est une population comme celle des bouquinistes, qui d'ailleurs certains ont été bouquinistes sur les quais de Seine, vieillit. Ça c'est évident, se renouvellent très peu et leurs recettes déclinent. Vous trouvez aussi des gens qui, vous allez me dire, ils sont concurrencés par les plateformes, mais ils y sont aussi. C'est tout le.
Et oui, c'est ce voilà, que vous expliquez.
Exactement. C'est-à-dire que finalement, leur planche de salut à contre-cœur a été aussi de se numériser et de référencer une partie de leur assortiment sur Internet. Il se trouve que le public aussi a du mal à se renouveler et le public, en tout cas, s'il ne se renouvelle pas, il est présent sur Internet. À quoi bon aller quand vous n'habitez pas à côté, chercher tel livre alors que vous pouvez l'avoir directement derrière votre écran.
éventuellement sous la pluie comme cet après-midi, alors oui. Que vous pouvez aller rester tranquillement chez vous, entouré par vos livres. Et alors, vous, l'actualité nous porte sur ce thème, les bouquinistes des Quais de Seine à Paris. Alors, sans rentrer dans la polémique, et on ne va pas débattre sur ça, je crois que vous avez d'ailleurs publié une tribune libre dans Libé ce matin.
Oui,
bon,
voilà.
D'où vient cette activité de bouquiniste? Parce que finalement, je n'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup. Je vais à Marseille, je vais à Bordeaux, je ne croise pas beaucoup de bouquinistes comme ça sur les quais de la Garonne, du Rhône, etc. D'où vient cette activité? Qui la régule?
Alors à Paris, elle vient du XVIe siècle,
oui.
Autour du Pont-Neuf, un commerce en fait à l'étalage. Hein.
Mm-hmm.
Et elle, je passe évidemment les étapes, mais elle est reconnue en 1859, après avoir été souvent menacée sous Napoléon III, etc. Et elle est régulée par la ville de Paris depuis à peu près 1860, si mes souvenirs sont bons. Évidemment, leur rôle sur le marché du livre de seconde main est dérisoire. Aujourd'hui, ne pèse absolument rien. Mais malgré tout, ils appartiennent au patrimoine de la ville. Et c'est, à mon avis, cet argument qu'il faut aujourd'hui mettre en avant face à cette réglementation qui serait de les supprimer pendant la cérémonie et en amont de la cérémonie des Jeux Olympiques. On les retrouve à Lyon, les bouquinistes, sur les quais de Saône.
Les quais de Saône,
oui. Il y a quelques autres endroits comme ça où on peut en trouver, mais avec une régulation différente et une présence plus rare.
Ouais, plus ténue. C'est pas la phrase de, si je ne sais plus si c'est, je crois que c'est Hemingway qui disait que la Seine était entourée de bibliothèques,
oui, oui.
De
non,
livres.
Non, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a quand même 206 bouquinistes à Paris. Pour à peu près d'un millier de boîtes installées.
Mmh. Et je me rappelle, ils avaient monté, je crois, une association. Ils avaient un livre un petit guide qui nous, ouais, permettait d'aller dans la France entière pour retrouver des. Ça existe encore?
Oui. Et puis, si vous voulez, vous avez des anciens bouquinistes qui ont aussi écrit des livres sur leur métier.
Leur métier. Alors, ont-ils encore un avenir ces bouquinistes-là, culture littéraire ou touristique?
Ils ont un avenir par la place qu'ils occupent dans le patrimoine parisien, en même titre.
D'accord.
Que les fontaines Wallace ou les entrées de métro Guimard, de mon point de vue. Et c'est au nom de ce patrimoine qu'on doit évidemment les défendre, c'est-à-dire que Paris ne serait pas Paris sans les bouquinistes.
Notamment. Alors vous dites qu'il y en a à Lyon, et puis est-ce que nous avons en France des villages du livre comme Redu dans les Ardennes belges? Ça m'avait fasciné quand j'avais découvert ce village par hasard.
Bécherel, en Ille-et-Vilaine, qui est aussi également un petit bourg rural.
Bécherel, ça s'invente pas.
Oui,
quand
ça
même.
S'invente pas. où vous retrouvez évidemment, alors on est plutôt dans le lieu d'animation, là encore une fois, où vous avez des librairies ouvertes le week-end. Il y en a, je crois, aussi en Occitanie, voilà, dans différents coins de France, où vous avez des villages du livre qui effectivement réunissent des anciens métiers de la chaîne du livre et qui, le week-end, plutôt l'été, effectivement, organise des animations autour de ce commerce.
Et alors, ces plateformes dont vous parlez, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, est-ce qu'elles sont nuisibles à long terme? Qu'est-ce qu'on peut voir de ça?
Donc, la transition numérique est engagée depuis un certain nombre d'années. Déjà, effectivement, je vous disais, 60% des transactions aujourd'hui passent par les plateformes. Il y a deux autres. Derrière cette plateformisation, vous avez deux autres éléments à prendre en compte. L'investissement des particuliers, c'est-à-dire que c'est un marché qui se déprofessionnalise, un commerce qui se déprofessionnalise.
Oui, les non-libraires.
Aujourd'hui, un non-libraire, c'est à la fois des particuliers sur le Bon Coin, par exemple, mais ce sont aussi des employés d'insertion dans des entrepôts, par exemple, des CDD, des employés non qualifiés, etc. Et puis, vous avez aussi un autre élément, c'est que de plus en plus, le marché du livre d'occasion, ou en tout cas le livre d'occasion, est un don. C'est-à-dire que ces grands acteurs du numérique ne rachètent pas les livres, mais les collectent au nom de l'environnement. Donner une seconde vie à vos livres, etc., etc.
Oui, j'ai vu la formule. Oui.
Voilà, exactement. Donc ça flatte l'identité du consommateur responsable. Mm-hmm. Mais il faut savoir évidemment que les revenus tirés de cette activité sont d'autant plus importants que les organisations comme Recycle Livre, les entreprises de l'économie sociale et solidaire environnementale,
oui,
ne payent pas les livres.
Ouais, il y a un pôle social et solidaire.
Exactement. Il y a la revente de dons.
Donc c'est Emmaüs.
Alors c'est Emmaüs évidemment qui fait du réemploi depuis très longtemps. L'objectif d'Emmaüs, c'est évidemment de financer ensuite une action sociale. Mais là, il faut savoir évidemment que ce sont des dons. Donc ce modèle-là s'impose aujourd'hui. C'est la revente de dons sous algorithme qui s'impose face à du rachat de livres et de la revente. On en est là aujourd'hui. Et vous avez Emmaüs, mais vous avez, je vous le disais, Recyclivre, les ressourceries de quartier qui sont dans des boutiques, mais aussi en ligne, etc. Donc vous avez finalement une diversité aujourd'hui des réseaux de commercialisation, de recommercialisation du livre, qui dont la principale caractéristique est qu'ils ne rachètent pas les livres qu'ils revendent.
Le lecteur y trouve son content, non ?
Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi ce marché-là, qui effectivement n'apporte rien aux éditeurs et aux auteurs, comme des formes de consommation culturelle supplémentaires. Mmh. Le livre d'occasion, ce n'est pas seulement un livre qu'on substitue à un livre neuf. C'est aussi un livre en plus, il faut pas oublier, un livre d'un auteur dont on voudrait tester certains romans avant d'acheter en neuf. Il peut amener aussi le lecteur d'occasion vers un lecteur de neuf. Et puis c'est aussi un livre épuisé en neuf qu'on va trouver sur le marché secondaire.
Oui, c'est ça. C'est certains éditeurs d'ailleurs qui n'hésitent pas à faire un tirage réduit de leurs ouvrages, 500, 600 exemplaires, en sciences humaines c'est pas mal déjà, et qui après se disent de toute façon les gens pourront le retrouver sur l'occasion.
Sur l'occasion, et puis les bibliothèques. Un autre mouvement qu'on voit aussi, c'est le désherbage des bibliothèques qui se retrouve de plus en plus sur le marché.
On rappelle ce que signifie le désherbage ?
Alors le désherbage, c'est on supprime des collections d'une bibliothèque, des titres peu empruntés, pour aller vite. Mmh. Et on voit de plus en plus ces grands acteurs, encore une fois, de l'économie sociale, solidaire, environnementale, eh bien récupérer ces livres pour les recommercialiser. Ce qui pose un problème, c'est que votre impôt a servi à garnir les livres des étagères de votre bibliothèque municipale, et vous payez finalement une deuxième fois le livre en le rachetant sur les plateformes.
Les bibliothèques, emprunter un livre dans une bibliothèque, c'est gratuit ?
C'est gratuit, ça dépend de ce qu'on appelle gratuit. C'est-à-dire que si vous êtes soumis à l'impôt, non, c'est pas gratuit. Après, ça reste évidemment des sommes extrêmement limitées.
Oui, tout à fait. Et vous parlez aussi de place de marché. Alors, j'ai pas très bien compris. Alors, quoi s'agit-il ?
La place de marché, c'est finalement ce qu'on appelle en anglais marketplace. C'est la forme de plateforme qui aujourd'hui domine dans l'univers du commerce numérique. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi ? Amazon a une place de marché, mais Amazon a aussi ses propres stocks. La Fnac a ses propres stocks, mais aussi une place de marché. Le Bon Coin, ce n'est qu'une place de marché. C'est-à-dire que vous êtes un opérateur numérique comme Le Bon Coin, vous n'avez pas d'entrepôt, vous n'achetez pas de marchandises. Votre seule activité est de mettre en relation des offreurs avec des demandeurs. Voilà. Et donc, en cela, vous organisez le marché, vous organisez la relation commerciale sans prendre trop de risques, finalement, puisque vous n'achetez pas la marchandise. Et il se trouve que Vinted ou Le Bon Coin ou les plateformes de marché, les places de marché Amazon ou Fnac sont aujourd'hui les premiers circuits sur lesquels transite le livre d'occasion.
Oui, c'est-à-dire que l'offreur, c'est lui qui stocke les livres.
Exactement. Je prends un exemple. Recycle Livre est un grand détaillant présent sur la place de marché, sur la marketplace Amazon. Il peut effectivement, ses convictions, ou je prends l'exemple aussi d'Emmaüs, pour ses convictions, dénoncer l'amazonisation ou les conditions de travail chez Amazon, la façon dont ils appauvrissent la classe ouvrière française ou américaine, par exemple. Mmh. Mais en même temps, ils profitent de leur audience en adhérant à leur marketplace pour y commercialiser, pour offrir un débouché à leurs entrepôts, finalement, à leurs livres.
Alors demain, quid de ce métier de vendeur de livres d'occasion ?
Effectivement, le métier de libraire d'occasion a du plomb dans l'aile, il s'est numérisé, je l'ai dit, et il s'est déprofessionnalisé. Il rejoint en fait ce que des collègues appellent le capitalisme de plateforme, c'est-à-dire que moins de salariés et plus de bénévoles dans les associations comme Emmaüs, oui. Plus d'employés d'insertion dans les entrepôts de l'économie sociale et solidaire également, plus de particuliers. Donc on quitte un peu à la fois le monde du salariat et de l'indépendance professionnelle, on va dire, pour des contrats de travail quand il y en a effectivement extrêmement précaires et peu qualifiés. Des personnes, effectivement, qui ne seront pas libraires, mais qui seront préparateurs de commandes. Donc, je pense que, de mon point de vue, c'est un métier qui s'appauvrit, qui se disqualifie face à cette plateformisation, et qui, en tout cas, perd aussi, peut-être, de son romantisme.
Oui, je pense qu'on aura quelques difficultés à trouver, je me rappelle, d'une librairie que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Procure, et... on rentrait, on avait à droite, on avait un rayon histoire, littérature religieuse, etc. On demandait un bouquin de Saint-Paul, de trucs, de machin, et il y avait un gars qui disait « Ah oui, 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 mais je me rappelle, oui, oui, tout à fait, il est sorti il y a 5 ans, il est à tel endroit. » Une culture immense, c'est quand même autre chose que bah, « Vous avez qu'à regarder, c'est en poche ».
Oui, bien sûr, oui. Alors, pour me faire un peu l'avocat du diable, la procure dans le 6e arrondissement, de manière assez étonnante d'ailleurs, achète énormément de livres et dispose d'un espace commercial très grand,
oui.
Comme on n'en fait plus beaucoup.
Oui, c'est vrai que là, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des projets de livres, là? Parce que bon, c'est passionnant, là, le livre d'occasion, mais il y en a d'autres, là.
Oui, alors je prépare un gros livre académique, plutôt, pour Armand Collin, pour l'année prochaine, une sociologie du commerce, qui sera un livre assez épais. Et puis j'ai une idée aussi, mais ça va me prendre beaucoup de temps, parce que c'est très difficile, de rédiger un livre plutôt pour le grand public, effectivement, comme mon éloge du magasin, un guide de Paris par son commerce. Je pense que, au-delà aussi du iconoclaste, évidemment, c'est-à-dire qu'il ne s'agira pas de reparler une énième fois de la Samaritaine ou du Bon Marché, etc., ou des bouquinistes même, mais de proposer un peu comme mes collègues Pinson-Charlot avaient réussi à faire, une promenade sociologique à travers les lieux du commerce parisien.
On en parlait avec Monique, puisque malheureusement Michel n'est plus là, mais avec Monique Pinson-Charlot, et au mois de septembre, les 15 promenades dans Paris qu'ils avaient sorties chez Payot, et c'était, oui, on se promenait dans Paris, on découvrait sociologiquement cette ville.
Je pense qu'on peut décrire aussi sociologiquement Paris par son commerce contemporain. Ouais. Voilà, ouais. Mais ça me prendra beaucoup de temps, parce que pour y avoir un petit peu réfléchi, l'affaire n'est pas si facile que ça à mener.
Bon, vous travaillez aussi à la vie des idées, enfin, vous êtes impliqué dans la vie des idées?
Oui, il m'arrive effectivement de commander des recensions ou des essais pour lavidesidées.fr, et puis je suis aussi, je mène d'autres recherches et puis mes enseignements à l'université.
Voilà, bon, ben, je vois qu'on a une vie active. Merci en tout cas, Vincent Chabot, pour cet échange. Je rappelle le titre de votre livre, le livre d'occasion, Sociologie d'un commerce en transition, publié aux Presses universitaires de Lyon. Et nous en profitons pour saluer nos amis des Presses universitaires de Lyon, j'ai eu l'occasion de croiser à Blois, aux Journées de Blois. Frédéric, un petit air sur le bouquiniste des bords de Seine. C'est parti.
Le bouquiniste du bord de Seine a un livre de 1816 en feuille de chou. Le bouquiniste du bord de Seine a un trésor daté 1816 en cuir de caribou. Il dort dans une péniche pour mari, des voitures il s'en contrefiche, il lit. Il dort dans une péniche pour mari, des bouchons il s'en contrefiche, et mistiche, acrostiche, il lit, il lit. Le bouquiniste du bord de Seine a une clochette en porcelaine en forme de hibou. Le bouquiniste du bord de Seine a des longs doigts de porcelaine et une odeur de gros matou. Il dort dans une péniche pour mari, des voitures il s'en contrefiche, il lit. Il dort dans une péniche pour mari, des bouchons il s'en contrefiche, et mistiche, acrostiche, il lit, il lit. Du bord de Seine, été, hiver, port des mitaines et un monocle en fermou. Le bouquiniste du bord de Seine connaît par cœur 120 poèmes qu'il murmure entre chien et loup, qu'il murmure entre chien et loup. Qu'il murmure entre chien et loup.
On parlait avec Vincent Chabot des bouquinistes et il me disait oh, c'est un peu des anards. Je rappelle que Michel Ragon, qui a écrit notamment La mémoire des vaincus et qui a été un spécialiste de Soulages, etc., a été lui-même bouquiniste sur les bords de Seine, comme on vient d'entendre la chanson. Alors, depuis le début de l'émission, nous mentionnons les titres des ouvrages commentés, donc vous retrouverez leurs références, je l'ai dit en début d'émission, sur le blog Commune de Paris de la Fédération anarchiste, et vous pouvez commander à Publico ces mêmes ouvrages. Vous retrouvez aussi quelques commentaires sur notre page Facebook, au fil des pages, et dans la chronique Des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. Troisième temps de l'émission, on pourrait l'appeler varia, c'est-à-dire que c'est une forme de plaisir de découvrir, comme chez les bouquinistes, des ouvrages intéressants, des ouvrages originaux, en furetant dans leur caisse. Là, nous attendons en ce moment Dominique, j'espère qu'elle n'a pas oublié cette fois-ci. Et en attendant, je voudrais vous parler d'un livre qui m'a bien plu, « La Terre plate, généalogie d'une idée fausse » de Violaine Giacomotto Cara et Sylvie Noni aux éditions Folio Histoire. La question est donc la suivante. Serions-nous condamnés à entendre par période, je n'y vais pas par quatre chemins, les mêmes âneries? Il en est ainsi de cette antienne, la Terre est plate. Mais Dominique est arrivée, là, elle est en... Alors, le direct l'emporte, comme on disait dans le temps avec Léon Zitrone, mon Dieu, Léon Zitrone. Alors, Dominique...
Oui, bonsoir Francis.
Bon, bonsoir, parfait. Alors, donc là, nous allons parler avec toi, parce que je sais que tu as des obligations dans ta lointaine province, d'un livre « L'allègement des vernis » de Paul Saint-Brice, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, de quoi s'agit-il ?
C'est Philippe Rey. Alors, d'abord, quelques mots sur l'auteur.
Oui, qui est cet auteur ?
En 83, c'est le fils du directeur du Clos Lucé.
Tu nous rappelles ce qu'est le Clos Lucé ?
Alors, c'est le lieu qu'a fréquenté Léonard de Vinci.
À la fin de sa vie.
À la fin de sa vie, oui. Mmh. Donc, ce jeune homme connaît bien ce Clos Lucé, il connaît bien Léonard de Vinci, et il fréquente toute la région d'Amboise. Hein. C'est un premier roman qui a obtenu le prix Orange.
D'accord.
Cette année.
Mmh. Alors, le héros, il y a un héros qui s'appellerait Aurélien.
Oui, alors c'est le directeur du département des peintures du Louvre, donc c'est un intellectuel un peu nostalgique qui est mal dans sa peau.
Parce c'est pas le vrai, hein, c'est un roman. Hein.
C'est vraiment un roman, oui, oui.
D'accord.
Alors, il voit dans le musée un refuge où se protéger hein, du bruit du monde, mmh. Il est perdu un peu dans son époque, il doute de tout. Il y a également un autre personnage très folklorique qui s'appelle Homéro, qui est recruté pour l'entretien du Louvre, qui se livre à un ballet homérique entre les statues avec son auto-laveuse sur les notes de l'été de Vivaldi. Donc on voit le cadre, un intellectuel et puis ce balayeur. D'ailleurs, on explique très bien aussi en même temps comment le Louvre est entretenu.
Mmh.
Alors, l'intrigue. Oui, alors on a une présidente du Louvre qui n'est pas non plus vraie, hein, c'est Daphné, une femme énergique, qui impose à Aurélien la restauration de la Joconde sous prétexte d'arguments techniques. Elle dit que la patine la rend trop verte, donc il faut l'alléger, c'est d'où le titre, et des arguments marketing soufflés par le cabinet McKinsey, qui dit que la restauration va relancer la fréquentation du Louvre.
Ça, McKinsey, ça nous rappelle des souvenirs, ça.
Oui, oui, oui. Alors, à contre-cœur, Aurélien, qui dit que la Joconde n'a pas besoin de plus de fréquentation, il y a déjà une surfréquentation. Hein. Mm-hmm. Mais donc, il est obligé d'obéir à sa hiérarchie. Il part à la recherche d'un restaurateur assez audacieux pour s'attaquer à la Joconde. Mm-hmm. Donc, beaucoup refusent. Il en trouve un en Toscane, Gaetano, un personnage assez original, et il va rénover cette Mona Lisa. Alors dans le livre, elle a deux N, hein, parce que c'est en Italie, on dit Mona avec Mon, deux N. Oui. Et donc, il va confronter son génie à celui de Vinci, tandis que les autres experts retiennent leur souffle et sont prêts, ils l'attendent au tournant. Mm-hmm. Alors, cette intrigue est truffée de données techniques et historiques réelles.
Mais alors, il y a des questions techniques, je crois,
oui, là, oui, qui sont posées. Oui, pas que techniques. Première question, ça revient souvent. Est-ce que le statut particulier de la Joconde, tellement admiré et encensé, est-il justifié ? Pourquoi tant de monde se précipite sur cette œuvre et ne vont pas voir les autres ? Mmh. Alors, il n'a pas tout à fait la réponse, hein, mais il pose des questions. À un moment aussi, une question amusante, la Joconde est-elle de droite ?
Et pourquoi cette question ?
Il y a des débats sur est-ce que regarder un tableau classique, c'est de droite ou de gauche ?
D'accord. Bon. Troisième
et
question
puis, la perception de la beauté. Hein, l'auteur y aborde le thème de la beauté, sa perte dans la vie courante, sacrifiée à l'autel de la rentabilité, de l'éphémère dans la société de consommation. Mm-hmm. Bon, pour lui, la beauté est associée au temps qui passe, à la succession des générations.
Hein. Alors, il y a une citation, là
Alors, elle est un peu longue. Alors, je préfère en citer une autre plus loin.
Ah, d'accord.
À propos des thèmes abordés. Alors, il fait une critique hein, de la société des images. Alors, j'ai adoré le passage où il y a une chanteuse qui va danser au pied de la statue de la victoire de Samothrace avec une hermine dans les bras, référence au portrait de Vinci de Cecilia Gallinari. Et je ne sais pas si tu l'as vu, mais moi, effectivement, ça m'avait un peu surprise que Beyoncé est venue danser au Louvre avec des rappeurs hein, devant certains tableaux.
Non, c'est pas trop la culture, je dois dire.
Bon, oui, ben, c'est pas la culture non plus d'Aurélien, et bon, il trouve que c'est un peu déplacé. Mais tout ça dans l'optique de toujours d'attirer plus de monde. Mm-hmm. Et puis la chanteuse lance un moment à Aurélien à propos de son hermine. She doesn't like men, donc elle n'aime pas les hommes. Donc, en fait, elle lui dit de dégager du tableau, devant le tableau.
Il y a des pertes de repères culturels, hein, quand même,
dans
cette affaire. Hein.
Alors, au-delà de l'emprise du marketing sur le métier de conservateur et des changements par les usages numériques, Aurélien pense que les clés de compréhension de la peinture se perdent. Les grands thèmes des œuvres sacrées et profanes s'éloignent des préoccupations. Alors là, je vais vous faire une citation.
Oui.
La plupart des allégories et des figures antiques représentées demeuraient un mystère, mais un mystère ennuyé qui ne valait pas la peine d'une recherche Wikipédia. Rares étaient ceux qui savaient encore qui étaient les Horaces et quelle était la nature de leurs serments. Si les gens ne savaient plus lire les chiffres romains, ce n'était pas bien grave, on les remplacerait par des chiffres arabes. On rallongerait les cartels pour donner davantage de contexte. Les applications sur smartphone faisaient un travail didactique remarquable. Sur les réseaux, les influenceurs offraient de nouvelles possibilités de médiation et s'adressaient à un large public. On n'allait pas regretter le latin non plus, c'était la marche du monde. Donc voilà, de temps en temps, il y a des petites piques. Hein.
Ouais, et puis, je trouve ça sympathique d'ailleurs.
C'est... Oui, ça te plairait. Ouais. Ouais. Alors, autre citation, un autre regard se posait sur le musée, un regard qui n'y voyait qu'une succession de viols, de persécutions des minorités, d'oppressions patriarcales. Il ne niait pas le rôle de l'art dans la perpétuation d'un système dominant. Il ne refutait pas sa portée idéologique, bien souvent au service des puissants. Mais il faisait la part des choses. Il n'éprouvait pas le besoin de réparation. C'était d'autres temps. Malgré lui, le musée devenait le terrain de lutte politique qu'il maîtrisait mal. Et dernier thème, la restitution des œuvres d'art aux Italiens. Puisque en ce moment, on est en train de restituer cette œuvre religieuse à la province. Litigieuse, hein. Mais pas la Joconde. Hein. Je rappelle que la Joconde a été acquise par François Ier. Hein.
Ah, c'est la France.
Oui, c'est pas un vol.
C'est pas un vol, ça. Bon.
Oui. Et pour terminer,
alors c'est un hommage au restaurateur, quand même.
Ah oui. L'auteur nous présente les techniques utilisées par les restaurateurs, ainsi que les enjeux d'une profession de l'ombre hein, qui ne se fait connaître que si par malheur une restauration est ratée. Alors, le restaurateur est uni avec le peintre. On pose aussi d'autres questions. Quel est son statut ? Est-ce que c'est un technicien ? Est-ce que c'est un artisan ? Un artiste ? Et dans le livre, il montre que ce sont presque des alchimistes. Hein. D'ailleurs, il y a une équipe de restauration qui s'appelle Nostradamus. Elle fait des modèles virtuels de restauration. Et l'auteur raille un peu cette équipe parce qu'elle n'est composée que de chimistes, de radiologues, de mathématiciens spécialisés en algorithmes. En fait, il n'y a pas de peintre dans,
Oui, c'est intéressant. Non. Oui, c'est oui. D'accord. Oui, tout à fait. Donc c'est voilà. Un livre intéressant.
Oui,
et
oui.
Tu nous rappelles le titre ?
Alors, c'est L'allègement des vernis chez Philippe Ray de.
Paul de Saint-Brice.
Paul
Saint-Brice.
Oui, oui.
Hein
oui.
Et
pour
c'est
ceux
sorti...
qui connaissent, c'est il y avait aussi son frère qui était très connu.
D'accord. Et c'est un livre qui est sorti en 2022. Dans 15 jours, que nous proposes-tu ?
Alors, je propose, comme c'est en ce moment les prix littéraires et la rentrée littéraire, je propose deux livres qui critiquent les prix littéraires. Alors, Comédie d'automne de Jean Rouault, chez Gallimard, une critique très sérieuse et vraiment très bien écrite, et une critique plus légère, Le livre de la rentrée de Luc Chaumara à la manufacture des livres.
Qui est, que j'ai lu et qui je trouve très, 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 très amusant, un peu déroutant,
oui.
Mais très, très
oui.
Amusant, oui, tout à fait.
Très amusant,
ouais.
Oui.
Très bien. Bah, écoute, merci Dominique, on se retrouve dans 15 jours.
Oui, allez, bonsoir.
À bientôt, au revoir. Nous retrouvons donc là le livre dont j'avais commencé à parler avant dont j'avais commencé à parler avant l'arrivée de Dominique à l'antenne, La Terre plate. Et oui, c'est Antienne, la Terre est plate. Comment croire une telle bêtise aujourd'hui? Et comment peut-on l'affirmer avec autant d'assurance? Pour cela, très simple. Il suffit d'édicter doctement qu'au Moyen-Âge, on y croyait. C'est facile. Les sources ne sont pas aisément accessibles, donc on assène. Les travaux sont nombreux, qui démontrent que les théories de la Terre plate étaient infiniment marginales en ces temps. Pourtant, il suffit d'affirmer, à l'instar de cette grande scientifique Marlène Schiappa, qu'au temps de Galilée, la majorité, je cite, « pensait que la Terre était plate et statique, pour qu'un nouveau tour de manivelle relance la mécanique. Statique, oui. Plate, certainement pas. Voilà ce que soulignent deux spécialistes. La première, Violaine Giacomotto Cara, est professeure de littérature de la Renaissance à l'Université de Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la circulation des savoirs de la nature au XVIe siècle. La seconde, Sylvie Noni, est professeure de sciences physiques et spécialiste de la physique arabe médiévale. Et ces deux personnes nous livre une passionnante approche croisée. Elle nous livre des faits, des chiffres, des documents, des textes, des cartes, quantité de références. Nous ne sommes pas dans l'affirmation « bah oui, la Terre est plate, et puis voilà, basta ». Non, on argumente, on discute, et on va démonter cette affirmation, et ce, dans le temps. Loin d'en faire un ouvrage complexe, au style ardu, elles savent manier l'humour pour démontrer que, depuis les Grecs, Platon, Aristote, tout autour de la Méditerranée, des mathématiciens, des astronomes, démontraient la réalité du globe, et les analyses clairement exprimées par les autrices ne devraient pas susciter débat. Elles citent ceux dont les travaux ont circulé dans le monde latin médiéval et ont constitué le corpus scientifique des hommes jusqu'à la Renaissance. Nous verrons que les différents résultats qu'ils contiennent, sont encore âprement discutés à la veille du voyage de Christophe Colomb, mais pas la sphérité. Elles reprennent les travaux des explorateurs tels Pythéas, 400 ans avant notre ère, a signalé d'ailleurs que un ouvrage consacré à Pythéas va sortir très très prochainement aux éditions Les Belles Lettres. Le doute réside dans le mouvement de la Terre. Celle-ci n'est pas statique, mais pendant l'Antiquité et la suite des temps, il n'y a pas les techniques pour démontrer ce mouvement. Donc, attention. Certains créent la confusion entre ces deux notions pour montrer, selon eux, la fragilité de la science sans tenir compte des temps. On est là aujourd'hui avec ça. Au Moyen-Âge, les débats sont âpres. Vous goûterez l'intelligence des citations. Au fil des pages, nous irons vers cette interrogation. Pourquoi, de nos jours, tenons-nous tant à ce mythe, enfin certains en tout cas? Des outils de réflexion sont fournis aux lecteurs pour une approche plus large sur la circulation des erreurs à l'heure où des notions aussi discutables que celles des post-vérités, des vérités alternatives, des faits alternatifs, semblent s'imposer, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et nous en sommes encore à la citation d'Umberto Eco, que j'aime beaucoup, sur la nuit, le caractère nuisible de ces mêmes réseaux sociaux. De plus, toujours aujourd'hui, aux États-Unis, certains mouvements, des sectes, instillent le doute, souhaitent concilier religion et science. Et j'aime beaucoup la conclusion des deux autrices qui affirment un beau combat intellectuel. Nous essaierons de démontrer que ce sont les constructions idéologiques à l'œuvre dans la réécriture de l'histoire des sciences dont il faut se méfier. Voilà un livre dont la lecture nous fait du bien et je vous le recommande. Je rappelle le titre, La Terre plate, généalogie d'une idée fausse, Folio Histoire 2023, Violaine Giacomotto Cara et Sylvie Noni. Chers amis, nous voilà les livres que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui. C'est fini dans Au fil des pages pour notre émission et nous nous retrouvons dans 15 jours, le mercredi 8 novembre 2023, nous recevrons Hélène Finet, historienne, pour nous parler de son ouvrage « La belle époque de l'anarchisme argentin, Buenos Aires, 1880-1920 », paru aux éditions Atelier de création libertaire. D'ici là, bonne lecture et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite « Ni Dieu ni Maître », toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager. Frédéric.
La cigarette sans cravate. Et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe, comme un paquet vers des étoiles, droite sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice, et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles, qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu.
l'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles n'aborde jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Le chien dort sur le paillasson, la grosse horloge distille le temps, très lentement, trop lentement, les objets familiers soudain me sont étrangers. Rachel, Rachel, si le petit cochon te mange pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. L'amour, tu sais, ça prévient pas, ça vous arrive avec fracas, ça vous retourne comme un vieux manteau, avant qu'on ait courbé le dos. Ça fait mal, c'est banal, parfois c'est très bon aussi. Rachel, Rachel, si les petits cochons te mangent pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. Cette chose en moi c'est encombrant, ça me remplit tous les dedans, mais en même temps c'est stupéfiant, j'ai l'impression d'être vivant, d'être un grand bateau blanc, plein de rire et plein de chant. Rachel, Rachel, si le petit cochon te mange pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. Tu vois, je suis complètement cinglé, je me prends pour un bateau doré qui roule en Méditerranée vers des rivages ensoleillés. Il y a des îles azurées et des beaux marins bronzés. Rachel, Rachel, si le petit cochon te mange pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. Quand j'ouvre mes yeux fatigués par les insomnies de l'ennui, je vois ma table tout encombrée d'un amas de feux griffonnés. Dans le ciel, un orage, je voudrais être avec toi. Rachel, Rachel, si les petits cochons te mangent pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. Pendant ce temps, toi, tu es là-bas, avec un marin dans tes bras. L'orage, sûrement, tu t'en fous, car il est grand et beau et doux. Le monde s'est arrêté, pourquoi donc il tournerait ? Rachel, Rachel, je voudrais être les petits cochons. Rachel, Rachel, et te manger tout en entier. Rachel, Rachel, je voudrais être les petits cochons. Rachel, Rachel, et te manger tout en entier.
J'ai mis dans ma besace, accroché à mon dos, le paquet de ma vie
et ce que je vous laisse, vous en ferez le tri, ou plus tard, ou bientôt. Je l'ai voulu pour vous, emballé de tendresse. Les fringues coups humains, au fil de mes années, ma collection d'automne en pièces de velours. Elle monte nu chaud, elle monte habillée. Je les offre aujourd'hui dans un geste d'amour. Le rocher des Valons, la montagne à nouveau, Sisyphe est habité par l'éternel cafard. Le pavé que l'on tient dans le cœur bien au chaud, pour que le mythe enfin nous condamne à l'espoir. J'ai mis dans ma besace, accroché à mon dos, le paquet de ma vie et ce que je vous laisse. Vous en ferez le tri.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, le libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Sur Radio Libertaire. Alors, on vient d'écouter l'indicatif. Je rappelle que la dernière partie de l'indicatif, c'est Catherine Ribeiro dans un morceau qui s'appelle Paix. Et je trouve que en ce moment, c'est tout à fait d'actualité. Elle parle de plusieurs pays, évidemment, qu'il faudrait rajouter ce qui se passe. En Palestine, en Israël, au Soudan, en Ukraine, etc., etc. Alors, bonjour à toutes et tous. C'est la 36e émission pour cette année 2023. Une émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Et Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous sommes avec Frédéric à la régie ce soir. Bonsoir Frédéric. L'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Depuis 1986. Et pour nous suivre, émission tradeunion.femmeslibres.blogspot.com. On peut réécouter l'émission, avoir le programme. Et on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. C'est une émission spéciale musique et chansons ce soir avec Daphné Devilliers qui est déjà là avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Daphné. pour un CD debout et puis un recueil de 10 nouvelles. Et tout ça sorti en juin 2023. Et ensuite, Evita nous présentera 3 nouveautés musicales. Donc, un album de La Frange, un autre album d'Amaury, et on commencera par La Nuit de Comae, qui est déjà venu nous voir ici. Et puis après, nous aurons des communiqués, des informations, des rendez-vous. Donc vous avez le programme et on va déjà écouter Daphné Dauvillier, puisqu'on ne naît pas femme.
Puisqu'on ne naît pas femme et qu'on le devient, est-ce que ça vaut pour tous les gamins? Tous ces jouets qu'on met dans vos petites mains, petit à petit creux.